Le philosophe et romancier Pascal Bruckner a fait une belle remarque pertinente, de bon sens, et je le cite. Il est sage d'avoir de l'argent, il est sage de s'interroger sur lui. Il est sage d'avoir de l'argent, il est sage de s'interroger sur lui. C'est ce que nous avons entamé il y a quelques mois. Nous nous sommes posé la question, l'argent est-il une fin en soi ou un moyen? Nous avons constaté que ce riche insensé que nous allons voir ce matin de nouveau s'est trompé en considérant l'argent comme une fin en soi. Est-ce sa seule erreur? C'est la question ce matin. Nous allons voir, nous allons méditer sur l'avoir et l'être, un choix dont dépend l'avenir de l'homme. La société de consommation d'un côté et l'évangile de l'autre nous proposent deux modes de vie, deux styles de vie. Ce matin, je vous invite à lire avec moi Luc chapitre 12, les versets 13 à 21. Luc 12, les versets 13 à 21. Du milieu de la foule, un homme dit à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi l'héritage que mon père, que notre père nous a laissé. » Mais Jésus lui répondit, « Mon ami, qui m'a établi pour être votre juge ou votre arbitre en matière d'héritage. » Puis, il dit à tous, « Gardez-vous avec soin du désir de posséder sous toutes ses formes, car la vie d'un homme, si riche soit-il, ne dépend pas de ses biens. » Il leur raconta alors cette parabole. Le domaine d'un riche propriétaire avait ramené ou bien rapporté de façon exceptionnelle. L'homme se mit à réfléchir. Que faire? Se demande-t-il. Je n'ai pas assez de place pour engranger toute ma récolte. Ah, se dit-il enfin. Je sais ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers pour en construire de plus grands. Et j'y entasserai tout mon blé et tous mes autres biens. Après quoi, je pourrais me dire, mon ami, te voilà pourvu de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et jouis de la vie. Mais Dieu lui dit, pauvre fou que tu es, cette nuit même, tu vas mourir. Et tout ce que tu as préparé pour toi, qui va en profiter? Voilà quel sera le sort de tout homme qui amasse des richesses pour lui-même au lieu de chercher à être riche auprès de Dieu. Dans une société de consommation comme la nôtre, la valeur de la personne dépend de son avoir, c'est-à-dire de ce qu'il possède, de ce qu'elle possède. Cette société de consommation pousse l'être humain à être beaucoup dans l'avoir et très peu dans l'être. Par conséquent, il accumule des richesses comme cet homme ou ce riche insensé. Il s'acharne dans le travail pour acquérir des biens qui sont en réalité indispensables, qui sont en réalité dispensables, au lieu de se libérer du temps pour prendre soin de lui, son corps ainsi que son âme. L'être humain est toujours tenté par consommer plus, mais rarement une consommation modérée. La société de consommation incite l'être humain à être très dépensier pour des choses futiles. La convoitise et la jalousie sont quelque part à l'origine de tels comportements. Elles se traduisent parfois par des dépenses dans le but de montrer à l'autre notre capacité. Montrer à l'autre, se faire paraître, montrer à l'autre que nous sommes là, se faire remarquer. Voilà un exemple du désir de paraître aux yeux des autres. J'achète le téléphone mobile, le modèle dernier cri, donc je suis. Ce téléphone donne un sens à ma vie. Je n'ai pas honte de le montrer aux personnes qui m'entourent dans le métro, à l'école et même à l'église. Faire du shopping peut devenir pour certains un mode d'existence. Il y a ceux, si on enlève le côté shopping dans leur vie, ces personnes sont mal à l'aise. On parle même de cette pathologie de l'achat. Ce mode de vie que nous propose cette société de consommation ne génère que des disparités entre les citoyens d'un pays et même entre les croyants. La société de consommation incite à rechercher de la richesse pour être quelqu'un respectable socialement. Selon elle, c'est l'avoir qui détermine l'être de la personne et non pas son identité à Christ. Se laisser happer par l'avoir, ce cercle vicieux, pour paraître, n'est pas sans déception. Car en réalité, ces espoirs que suscite l'avoir pour paraître, pour se faire remarquer, pour être quelqu'un de la société, engendrent bien des frustrations telles que l'insatisfaction. C'est-à-dire, dès que nous goûtons à la surconsommation et à la richesse, elle développe en nous un appétit insatiable pour elle. Puisqu'elle ne peut pas combler en nous ce vide. Elle ne peut pas combler en nous la véritable vie. Elle ne peut pas combler en nous les choses que nous cherchons parfois. Donc, les publicités qui prêchent le bonheur, la paix, la sécurité, l'amour, le pouvoir sont mensongères. Elles ont un seul but, la surconsommation. Cette réalité est nommée dans le livre d'Ecclésiaste en relation à l'argent. Qui aime l'argent ne sera jamais rassasié de l'argent. Le riche insensé s'est trompé en considérant qu'une véritable vie, ou bien vivre sa vie, dépend de l'avoir. La surconsommation et l'avoir attirent aussi des parasites, c'est-à-dire des personnes qui tissent des relations avec vous par intérêt. Ces parasites voient vos trains de vie surélevés, ils interprètent que vous êtes riche, qu'ils trouveront quelque chose à grignoter. Nous comprenons bien que l'appât du gain attire des personnes peu fréquentables qui sont motivées uniquement à se remplir leur poche. Encore l'Ecclésiaste qui nous dit plus on a des biens en abondance, plus les profiteurs se multiplient. Enfin, la surconsommation et la voix attirent aussi des tracas, des soucis. Une vie centrée sur l'avoir, sur la surconsommation, ne peut qu'être néfaste pour l'être humain, autant physique, par ses excès en tout genre, que psychologique, par ses préoccupations qu'il engendre. Encore l'Ecclésiaste, il nous dit « Agréable est le sommeil du travailleur, qu'il ait peu ou beaucoup à manger. Mais l'abondance du riche ne le laisse pas dormir tranquillement. » Le slogan de la société de consommation « Travailler plus pour gagner plus » dans le seul but d'augmenter notre pouvoir d'achat, prend soin de cacher son mauvais côté, son prix, comme les désastres écologiques, comme le chômage, comme la dégradation sociale. Voilà ce que nous propose la société de consommation. Axé sur l'avoir, axé sur les choses qui sont parfois inutiles. Mais et l'Évangile, sur quoi? L'Évangile met l'accent sur l'être et non sur l'avoir. Le riche insensé se disait lui-même, « Mon ami, te voilà pourvu de biens en réserve pour de nombreuses années. » « Repose-toi, mange, bois, jouis de la vie. » Mais Dieu lui dit, « Pauvre fou que tu es, cette nuit même, tu vas mourir. Et tout ce que tu as préparé pour toi, qui va en profiter ?» Voilà quel sera le sort de tout homme qui amasse des trésors ou des richesses pour lui-même, au lieu d'être riche auprès de Dieu. Si un homme parvient à posséder tout meulant, à quoi cela lui sert-il s'il perd sa vie? Et que peut-on donner à cet homme pour racheter sa vie? Quelle signification attribue à l'être? L'être, c'est ce qu'on est, l'individu qu'on est. Depuis la désobéissance de l'homme dans le jardin d'Éden, l'être humain est plus axé sur l'avoir au détriment de l'être. L'interdiction de Dieu à l'homme de ne pas manger du fruit d'un seul arbre dans le jardin d'Éden, c'est-à-dire l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ne met-elle pas le doigt implicitement sur le choix de l'homme entre l'avoir et l'être? Si notre réponse est oui à cette question, alors Adam a choisi l'avoir. Il a succombé au vertige de la puissance de l'avoir, avec ses conséquences sur l'être. Il a succombé au vertige d'être un Dieu, d'être comme Dieu. Adam avait tout dans le jardin. Mais un seul arbre. Dieu a dit non. Mais il voulait tout. Est-ce un comportement de l'être ou un comportement de l'avoir, acquérir tout? Contrairement au premier Adam, le second Adam, c'est-à-dire Jésus, a choisi de résister à la tentation de Satan et de rester dans la dépendance confiante des règles fixées par Dieu. Jésus a choisi que son être dans sa totalité soit pour la gloire de son Père. Jésus a été tenté en toutes choses. Mais il a dit non. Il savait où il allait. L'avenir et la liberté de l'être humain dépend de son choix entre l'avoir et l'être. Être dans l'avoir conduit l'homme forcément à une vie où il est sans limite dans ses désirs. Nous pouvons penser, avancer, Adam voulait tout, satisfaire ses désirs, avoir aussi l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Selon les Écritures, l'amour que nous avons chanté, le bonheur, la paix, la sérénité et le développement de l'être humain ne peuvent pas être seulement dans l'avoir. En revanche, ils dépendent de son identité en Christ, de sa communion avec le Christ et son appartenance à Christ, et non pas dans les richesses. Et quand l'homme est dans l'avoir, de gagner plus, d'avoir plus, il y a des valeurs qui lui échappent. Si vous êtes riche, mes frères et sœurs, je ne sais pas s'il y a des riches parmi nous, ce serait bien. Comme ça, vous pouvez aider la femme de veau à construire c'est programmé pour une prochaine fois de parler sur la gestion de l'argent. Si vous êtes riche, vous pouvez acheter tous les plaisirs du monde. Tout. Acheter des filles, acheter des voitures, acheter tout, des maisons, tout et tout. Acheter même les juges pour vous défendre dans des cas parfois qui sont vraiment sordides. Tout acheter. Mais vous ne pouvez pas acheter l'amour. Vous ne pouvez pas acheter le bonheur. Ni la paix, ni la sérénité, ni le salut éternel. Car tout ceci relève de la gratuité. C'est gratuit. Ils sont applicables à l'être et non pas à l'avoir. Ils sont du domaine spirituel et non matériel. L'argent fait croire à l'être humain qu'il peut tout monnayer, même le paradis. D'après ce proverbe, s'il y a de l'argent, la route du paradis est toute tracée. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que si nous sommes riches, la route du paradis est toute tracée pour nous? Je ne crois pas. Il fait croire à l'homme que la finalité de la vie se limite à ce monde. Il a fait oublier à l'homme riche, à ce riche insensé, que sa vie dans ce monde ne se résumait pas uniquement dans l'être, mais dans sa richesse. Il a fait croire à cet homme que l'être, c'est que dalle, mais la richesse, c'est ça qui compte. Ce riche insensé n'est pas pleinement hors de sens dans une logique à court terme, dans le présent. Il est un bon cartésien. Il développe un raisonnement logique dans un contexte d'abondance. Il investit. Il agrandit son espace de stockage. Mais bon cartésien qu'il est en gestion d'entreprise, il se trouve soudainement confronté avec l'au-delà, l'éternité. Cette nuit même, dit Jésus, tu vas mourir. Ça change la donne. L'homme meurt et après quoi vient le jugement de Dieu. Soit pour l'éternité avec Dieu, soit loin de Dieu. L'avoir fait croire que l'au-delà est un mensonge ou une invention philosophique. Ceci dit, vivre pour l'être selon la parole de Dieu n'est pas incompatible avec l'avoir, mais avec la surconsommation. Puisque nous vivons dans un monde créé, nous sommes des êtres créés, nous sommes des êtres matériels. En conséquence, il faut se nourrir et se vêtir, surtout en temps d'hiver. Il faut acheter des manteaux, n'est-ce pas? Jésus même nous invite dans le Notre Père à prier pour nos biens matériels, le pain quotidien, mais aussi pour nos biens spirituels et aussi moraux. Mais vivre l'être pour l'être implique un détachement de nos richesses matérielles. Vivre pour l'être implique un détachement de nos richesses matérielles, de la surconsommation, afin que nous puissions pas nous identifier à elle, car notre identité se trouve uniquement en Christ et non dans des choses passagères. La richesse ainsi que la surconsommation ne doivent pas faire avec nous un. Elles ne doivent pas nous constituer. Il ne faut pas que l'argent soit notre peau. Il ne faut pas que la surconsommation soit notre esprit, notre tête. Non. Notre identité se trouve en Christ. Ceci n'a pas été simple, facile pour le jeune homme riche qui cherchait la voie du salut en demandant conseil à Jésus. Voilà un riche qu'on pouvait dire, voilà qu'il est censé. Il cherche la voie du salut, il va demander conseil à Jésus. Jésus lui propose de passer de l'avoir à l'être. Cette voie du salut est inaccessible pour lui. Sans aucun doute, si Jésus lui aurait présenté un évangile dans lequel les bénédictions de Dieu conduisent forcément à la prospérité, il serait son disciple, il serait son homme. Malheureusement pour lui, Jésus prêchait le vrai évangile. Jésus n'était pas le prédicateur d'un évangile qui incite à vouloir toujours davantage d'opulence matérielle, ni d'un évangile compatible aux tendances de notre humanité déchue à la cupidité et à l'égoïsme. Mais un évangile dans lequel les choses matérielles ne sont pas désirées comme des choses primordiales à rechercher, mais le royaume de Dieu et sa justice. Voilà le vrai évangile. Cette recherche du royaume de Dieu et sa justice concerne chaque aspect de notre existence d'homme. La famille, le travail, nos voisins, nos proches, tout est dans cette recherche. Frères et sœurs, au jour du jugement, l'avoir n'aura aucune utilité. Aucune utilité. L'argent n'aura aucune utilité pour le défunt dans l'au-delà. Ce dernier ne pourra pas discuter l'argent avec le Seigneur au jour du jugement pour bénéficier ses faveurs. Le Seigneur ne peut pas être acheté, même si le monde, tout le monde est achetable. On ne peut pas acheter le Seigneur. D'autre part, notre sécurité dans l'avoir nous abandonne au seuil de la mort. Notre avoir ne peut pas nous assurer sa protection en monnayant les bienfaits de Dieu au jour du jugement. L'histoire de l'homme riche et Lazare, qui nous est rapportée dans l'évangile de Luc au chapitre 16, décrit d'une part une victime de l'avoir, de mammon, et d'autre part, cette victime appelle le secours des personnes qui sont riches spirituellement. Quel paradoxe entre Lazare et l'homme riche. Ce riche n'appelle pas mammon. Il n'appelle pas son argent au secours. Non. Il appelle qui? Il appelle Abraham. Il demande le secours d'Abraham, le secours de Lazare. Car il réalise que mammon ne lui appartient jamais vraiment. Que mammon est une entité trompeur. Il a fait croire à cet homme qu'il est tout puissant, il peut faire tout. La mort et le jugement révèlent à cet homme riche qu'il est léger comme la paille. Car ce sont ses œuvres, ce qu'il a choisi d'être, qui sont jugés par le Seigneur et non pas son argent. L'avoir est trompeur. L'argent est trompeur. Car il promet à l'être humain une sécurité qu'il ne possède pas. Il fait croire à celui qui le sert son omniprésence. Je serai avec toi partout. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. La Bible est loin d'approuver une telle aberration. Pauvre fou que tu es, cette nuit même, tu vas mourir et tout ce que tu as préparé pour toi, qui va en profiter? Donc, notre avoir ne nous accompagne pas dans l'au-delà. Il y a ceux qui pensent qu'après la mort, ils auront toujours de quoi pour montrer qu'ils sont des hommes importants. Il y a cette philosophie. Mais nous n'allons pas rentrer dans ces débats. Au jour du jugement, l'être humain est placé devant son être et non pas devant son avoir. Mais la question qu'il faut se poser, à quoi sert-il d'être une personne qui a une renommée planétaire si aux yeux du Seigneur, elle est une insensée ou une inconnue? À quoi ça sert d'être renommée partout dans le monde si notre vie n'est pas en Christ? À quoi ça sert? ce qui sera discuté au jour du jugement, c'est notre parcours, nos compétences acquises lors de notre vie ici-bas en ce qui concerne la connaissance de Dieu, l'éthique chrétienne, notre vie de disciple. Quelle a été la place de la Seigneurie du Christ dans notre vie de croyant? Au jour du jugement, le Seigneur examinera l'équilibre entre croire et faire, et le faire, l'être et le faire, l'avoir et l'être, dans la vie de chacun de ses disciples. Une question cruciale qu'il nous faut poser l'homme riche, le riche insensé, ne s'est pas posé, il a négligé cette question. Quel parcours allons-nous présenter au Seigneur? Quel parcours allons-nous présenter au Seigneur? Ça concerne les pauvres, les riches, les chrétiens, ainsi que les incroyants. Tout le monde sont dans le même sac. Il ne sera pas surprenant, connaissant le cœur tortueux de l'homme, de présenter au Seigneur un parcours qui fait toute sa fierté, toute sa joie. Une carrière réussie dans le foot. Une carrière brillante dans l'athlétisme. Une carrière brillante dans telle chose, et j'en passe. Quel parcours allons-nous présenter au Seigneur? Malheureusement, le Seigneur prendra compte de notre parcours spirituel qui définit la manière que nous avons géré et vécu notre spiritualité. Comment avons-nous vécu la pratique de la vie spirituelle? Si nous avons bien pris soin de notre vie spirituelle avec les fruits de l'esprit, si nous n'avons pas trop de cholestérol spirituel, entre guillemets, comment nous avons géré les dons spirituels que le Seigneur nous a donnés? Notre riche insensé a investi sur le court terme, sur l'avoir, et non sur le long terme, sur l'être. Devant le tribunal de Dieu, l'être humain sera jugé selon l'être, c'est-à-dire ce qu'il est, l'individu qu'il est, et non selon son avoir, à ne pas confondre. Afin d'éviter des conséquences irréversibles dans l'avenir. Que conclure? Passer de l'avoir à l'être est un cheminement de bon sens, de sagesse et louable par notre Dieu. Étant donné que notre société de consommation, il est nécessaire de redonner une juste place à l'avoir, à la surconsommation, pour réapprendre à être, pour sortir de leur emprise sur notre existence. De même, pour nous réapprendre à ce qui compte dans la vie, à savoir le Christ. Pour que nous puissions arriver à ce but, un lâcher prise sur les choses matérielles pour celles du royaume de Dieu c'est important, puisque l'être ainsi que l'avoir sont opposés, comme nous avons vu. Avoir et être peut être un dilemme pour certains d'entre nous, mais les bénéfices ou bien les bénédictions de Dieu, les richesses de Dieu en notre faveur dépend du choix que nous allons faire sur ces deux modes de vie, à savoir vivre pour l'avoir, pour la richesse, ou bien vivre pour l'être, pour le Seigneur. Amen.